On n'est pas du monde, version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.
Aujourd'hui à l'émission, on redécouvre la figure controversée du chanoine Lionel Groulx avec le père Martin Lagacé. Dans notre dernier numéro du Verbe, le numéro d'hiver 2018, on avait dans la rubrique « Classe de maître » un texte signé par un nouveau collaborateur. En fait, pas si nouveau. Tu avais déjà signé d'autres textes dans le passé, mais pour cette chronique-là, c'était la première fois. Donc, un texte de Martin Lagacé, le père Martin Lagacé, sur l'abbé, le chanoine plutôt, Lionel Groulx, qui est une figure... je dirais un peu contesté, controversé, parce que, bon, on le revisite de toutes sortes de manières de nos jours. Certains plus nationalistes vont le prendre comme un modèle, d'autres se gêneront pas pour dire qu'il a exagéré pas mal dans ses écrits. Bref, mais dans ce texte-là de Martin Lagacé, on a un portrait vraiment intéressant, vraiment captivant de l'homme, de sa vision aussi pour ce qui était le Canada français. J'aimerais savoir, d'abord, bonjour Martin Lagacé.
Bonjour Antoine.
J'aimerais savoir comment tu as commencé à t'intéresser au chanoine Groulx. Comment ça a commencé, ton histoire d'amour, hein, parce qu'on peut le dire. D'où ça part?
Bien, en fait, moi j'ai habité 20 ans en France, puis je suis revenu à peu près une dizaine d'années. Et je me suis mis à revisiter des noms que j'avais entendus, comme des stations de métro, des noms de cégep, des titres de livres, etc. Je me suis dit, tiens, ça, c'est mon héritage. Je pourrais commencer à lire Menot, Maître Draveur, Maria Chapdelaine, j'avais pas lu ça, là, tu sais, puis, etc. J'ai découvert Saint-Denis Garneau, sur lequel j'ai fait une maîtrise en philosophie. Et puis, forcément, dans les grandes figures de notre passé, il y avait ce nom de Lionel Groulx. Et c'est assez récemment, en fait, que je me suis mis à lire sérieusement ses œuvres à la faveur d'une université d'été organisée par l'Observatoire Justice et Paix, parce que l'Observatoire réfléchit beaucoup sur les questions d'identité et d'histoire, de guérison de la mémoire. Donc, les historiens sont aux premières loges pour nous aider dans ce travail.
Alors, tu parles d'histoire. Peut-être on pourrait... brosser un portrait historique du personnage Lionel Groulx. Qui était-il? D'où vient-il?
Oui, alors c'est un monsieur qui est né dans une toute petite famille très humble à Vaudreuil à la fin du 19e siècle. Et puis, comme beaucoup de gens, il a été propulsé dans le monde par les religieux, par les séminaires, etc. Il a eu accès à la culture. C'est un garçon très, très, très doué et puis il a été remarqué pour ça très vite. Et puis, il venait d'un milieu, comme beaucoup de familles canadiennes-françaises, très humble et très fervent. Et donc, il y a une foi chevillée au corps, il ressent cet appel au sacerdoce. Et une fois qu'il est prêtre, on lui demande d'enseigner l'histoire. Et c'est vraiment par obéissance, en fait, providentiellement, qu'il a commencé à étudier l'histoire pour répondre à un appel de l'Église. Et là, il s'aperçoit que, en fait, l'historiographie canadienne est en lambeaux depuis François-Xavier Garneau, pardon. Il s'est plus fait de nouvelles, un nouveau travail de. Et puis, en fait, le drame derrière tout ça, c'est qu'on est un. Il constate qu'on est un peuple qui a un peu honte de son passé, en fait. Ça va être ça, la grande œuvre de Lionel Groulx, c'est de dire. C'est vraiment une œuvre de guérison de la mémoire, c'est de dire non. On a une histoire fantastique.
Dont on peut être fier.
On peut être fier et qui est le signe qu'on a un destin unique. Mmh. Parce que ce n'est pas du tout un culte du passé. Pour lui, le passé est la trace d'une âme et l'âme est aussi le signe d'un destin. Alors, il y a une dimension évidemment religieuse là-dedans, mais aussi une dimension très horizontale. Lui, il dit, je ne suis pas devenu historien parce que j'étais nationaliste, mais je suis devenu nationaliste parce que j'ai étudié l'histoire. Et c'est vrai, et c'est une grande leçon qu'il nous donne, c'est-à-dire que quand on lit son histoire, on aime notre histoire, même si elle n'est pas tout le temps brillante. Et quand on l'aime, bien, on sent son âme, et puis on sent qu'on peut, qu'elle a un chemin à faire, qu'elle a quelque chose à apporter.
C'est pas regarder le passé pour se vautrer dedans, ou soit s'en désoler, ou l'idéaliser, mais plutôt comme une façon de se projeter dans l'avenir, de se voir.
Mais c'est vraiment puiser un enthousiasme. Puis quand on lit Lionel Groulx, on est enflammé. C'est sûr que c'est des méthodes historiques qui sont un peu passées. C'est sûr ouais. qu'il y a un parti pris d'amour pour son peuple.
Un certain mais lyrisme aussi dans la manière d'écrire.
Bocoté dit que c'est un romantique.
Ouais.
Mais il fait un travail aussi sérieux. Mais il te transmet une flamme. Et ça, on ne retrouve plus beaucoup ça dans l'historiographie moderne.
Qui est bien léchée, bien droite. Oui, James?
Ça veut dire quoi pour lui, à son époque, être nationaliste?
Ouais, très bonne question. Alors, puis qu'est-ce que c'est le nationalisme, hein? En travaillant un petit peu Lionel Groulx, on s'aperçoit qu'il y a deux niveaux. On pourrait dire d'abord qu'il y a le patriotisme, qui est un sentiment, là, avec les Jeux olympiques qui viennent d'avoir, tu sais, on veut tous que le Canada ait des médailles. Tu sais, on a tous un peu cette identification spontanée.
Au drapeau.
Au drapeau, un pays, etc. On sait qu'on est redevable de notre nation. Mm-hmm. Mais le nationalisme, c'est une conscience... d'un degré supérieur qui naît souvent, en fait, d'une conscience de fragilité et d'une situation dramatique d'un peuple ou d'une nation. Et ça, on sent ça chez Lionel Groulx très fortement. On sent qu'on est un peuple précaire, qui est beau, qui est noble, mais qui doit lutter pour préserver son salut. Et le nationalisme, donc, c'est cette conscience d'une fragilité et qui va se concrétiser dans des revendications politiques, culturelles, linguistiques. Il sera à la tête d'une revue qui s'appelait L'Action française, à l'origine qui existe toujours, qui s'appelle maintenant L'Action nationale, et dont le cheval de bataille était vraiment la langue française, hein, pour préserver notre identité. Et c'est tellement actuel, c'est toujours actuel, hein, pour rester ce que l'on est, ben, il faut protéger cet aspect de notre... Donc le nationalisme, cette conscience qu'il faut lutter... que c'est pas donné, qu'on va pas nous faire cadeau de notre identité ou de notre vie par les autres, et que c'est à nous de se battre, de prendre conscience de ce que l'on est et de revendiquer pour... Alors, c'est pour ça qu'on le voit comme un père du nationalisme québécois.
Lionel Groulx était un homme d'église aussi. C'était quoi son rapport avec le clergé à l'époque, Martin Lagacé?
Alors, c'est intéressant parce qu'on le voit comme un hyper-conservateur. Mais en fait... Il se nourrissait, oui, de Louis Veuillot, de Joseph de Metz, qui étaient des ultramontains à la mode à l'époque. Mais il aimait Lamennais, il aimait Lacordaire, qui étaient aussi des chrétiens de la fin du 19e, début 20e siècle, qui étaient assez plutôt libéraux, etc. Et puis c'était un homme qui avait un charisme extraordinaire pour la jeunesse et qui voulait justement faire, par rapport aux questions d'économie. Il était très réaliste, c'était pas un rêveur. Il disait, mais si le Québec ne s'assume pas économiquement, s'il n'y a pas une nouvelle élite commerciale, industrielle, disons, il n'y aura pas de nation québécoise qui va se tenir debout. Donc, on l'associe à un certain conservatisme, mais en fait, c'est un homme qui est en prise avec la réalité puis qui a des grands idéaux. Alors, au niveau du clergé, eh bien, il est assez controversé à son époque, mais... Il est quand même généralement accepté par l'épiscopat. Puis c'est un homme qui a traversé la province de Québec, qui est allé aux États-Unis chez les Franco-Américains, au Canada, partout rencontrer les Canadiens français, parce que c'était un extraordinaire orateur. Et puis, dès qu'il a commencé à enseigner l'histoire, il a rempli des auditoriums, etc., parce qu'il y avait une flamme, puis c'était un type solide, puis il a un verbe magnifique. Il faut lire. Mathieu Bocoté dit, je pense, il dit, c'est un de nos classiques littéraires. Il faut lire Lionel Groulx, c'est vraiment une belle langue française, et puis c'est riche en informations, puis encore une fois, en flamme d'amour.
James?
Tu décrivais un peu ses positions par rapport à l'économie et tout ça, je me disais, on pourrait peut-être même dire de lui qu'il était une figure de proue de la Révolution tranquille. Là.
Oui, c'est ce que certains disent, mais certains disent le contraire, parce que c'est d'abord parce que c'est un prêtre, c'est ce qui fait qu'il est une figure controversée, c'est qu'on l'associe à un ordre, à l'ordre ancien, l'ordre clérico-nationaliste. Alors, on pense que c'est une figure réactionnaire, mais en fait, René Lévesque était un grand admirateur de Lionel Groulx, comme Claude Ryan, comme d'autres figures de toutes les... tendance politique. Parce que c'est un homme libre, je pense. C'est un homme profondément libre. Il transcendait ces catégories-là et il aimait son peuple d'une manière intelligente et il communiquait cet amour.
Tu parlais, Martin Lagacé, en parlant de Lionel Groulx, d'un homme qui voyait comment la position d'un peuple, d'une nation reposait, ben, évidemment, quand on regarde l'histoire, sur une certaine fragilité, mais aussi comment cette conscience de cette fragilité-là lui permettait d'envisager son avenir différemment. Est-ce que, quelle était pour lui cette vision-là d'avenir pour le Canada français? Est-ce qu'il était pas nommé comme étant le Québec là, tant que ça à cette époque-là. Comment il voyait le futur?
Alors, c'est un nationaliste canadien-français. Donc, aujourd'hui, c'est des catégories qui sont obsolètes, ouais, parce que le Québec a rompu finalement avec le reste de la communauté canadienne-française. Mais pour lui, quand même, le Québec, c'était la grande chance de la nation canadienne-française.
Okay.
Parce que c'était le lieu où il y avait une autonomie politique, des institutions. Parce qu'une nation, c'est un territoire, c'est une histoire, c'est une langue, une religion, mais c'est aussi un territoire et des institutions. Et là, on avait une nation française, pour lui, et catholique. Et donc, les Canadiens français étaient un peu dépendants de ce château fort, si on peut dire. Et pour lui, la Confédération canadienne, c'était une belle idée au départ, mais son analyse, c'est qu'on s'est fait avoir, en gros. C'est que, finalement, les droits des Canadiens français hors Québec n'ont pas été respectés pour la liberté de religion, d'enseignement, de la langue, etc. Et qu'en fait, on s'est fait avoir dans ce deal-là, où on n'a pas respecté l'esprit de cette confédération. Donc, lui, il prêche vraiment pour un État québécois de plus en plus fort. C'est pour ça qu'on peut voir des ressorts de séparatisme chez lui. Parce qu'il se sent libre, il se dit, oui, la Confédération, c'était un pacte noble au départ. Si on l'avait respecté, ben on reste dedans. Mais si on ne le respecte pas et qu'il faut, pour qu'on devienne ce que l'on est, qu'on soit indépendant, ben on sent qu'il est très libre par rapport à ça. Bon, évidemment, c'est sûr par rapport à la hiérarchie ecclésiastique, il fallait qu'il fasse attention.
Ça ne devait pas passer toujours, hein.
Disait, mais
donc, donc, on ne retrouve pas des traces explicites de ce séparatisme-là dont tu parles, ou on le devine en tout cas?
On le devine, mais il y a un moment donné, d'ici en 1937, il dit « nous l'aurons notre État français
mm-hmm. ».
Tu vois, donc pour les péquistes aujourd'hui, c'est clairement c'est l'ancêtre du Parti québécois qui est là.
qui est déjà là en germe.
Ouais, c'est ça.
James?
Puisqu'on parle de nationalisme, justement, sa figure est souvent décriée parce qu'on le voit un peu, on l'associe comme un idolâtre presque de la nation, alors que dans ton texte publié dans la revue Le Verbe, on a fait ressortir une citation de lui qui défait un peu toutes les idées préconçues à ce sujet-là. Hein? Peux-tu la...
La civilisation, la nation, la patrie ne sont pas des fins, ni surtout des fins ultimes. Mais donc, si on continue la pensée, on peut dire, sont des moyens. Des moyens de quoi?
C'est ça. Ben, c'est-à-dire que on est au 20e siècle où les nationalismes ont fait des ravages. Le national-socialisme ou bien d'autres formes, le franquisme, etc.
Ouais.
Donc, l'Église est très prudente par rapport à cette question. Mais pour Lionel Groulx, le nationalisme est tempéré justement par le catholicisme. Parce que le catholicisme nous ouvre sur l'universalité. Le catholicisme joue un rôle, je dirais, récurrent, c'est-à-dire qu'il nous aide à être nous-mêmes, mais il nous interdit de nous enfermer en nous-mêmes en faisant de la nation un absolu, ce qui a été dévastateur, encore une fois, au 20e siècle. Donc, pour lui, le catholicisme, c'est la chance de s'ouvrir sur l'universel. Puis c'est vrai que quand on regarde notre petit îlot français en Amérique, il a toujours été ouvert sur l'universel grâce à son catholicisme. On le voit, il y a une circulation avec l'Europe, avec les idées, avec le grand tout catholique. Et pour Groulx, ça, c'est fondamental. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui... Et là, vraiment, il y a une césure avec le nationalisme contemporain. C'est-à-dire, pour lui, le catholicisme, c'est pas un équipement en option de notre réalité. Mais à un moment donné, il dit « nous serons catholiques ou nous ne serons rien ».
Oui, parce que dans le mouvement nationaliste actuel, on voit parfois une instrumentalisation de la religion où on prend l'Église catholique ou le catholicisme culturel comme étant un plus, peut-être, parfois, ou chez certains autres, comme étant quelque chose à écarter complètement, qui est absolument pas nécessaire, alors que chez Groulx, il y avait une hiérarchie, en tout cas, dans ces valeurs-là qui était inverse.
Exactement. Puis moi, je pense que là, on a une leçon à entendre de lui. Quand il dit « nous sommes catholiques ou nous ne sommes rien », on voit que depuis que les Québécois vont plus À l'Église, on marche un petit peu vers le néant, ne serait-ce que démographiquement,
absolument,
mais même au niveau de la langue. À force de bûcher dans la religion, c'est l'arbre de la langue qui commence à tomber. Alors, il y a vraiment une question ontologique là, qui pose, mais qui n'est pas facile aujourd'hui à faire entendre.
Pour conclure, Martin Lagacé, en 30 secondes, pourquoi lire Lionel Groulx aujourd'hui?
Ah, ben parce que c'est un grand esprit. Il faut lire les... Nous, on est des petits esprits. Alors, lire les grands esprits, ça nous fait grandir.
Ouais.
Et encore une fois, c'est un homme qui, non seulement il nous apprend plein de belles choses, il faut lire la naissance d'une race. C'est l'histoire de la Nouvelle-France et c'est épique. Et ça nous donne vraiment un amour, une fierté. On se dit, oui, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait pour nous, pour construire ce pays, c'est vraiment remarquable. Ça donne envie de continuer.
Père Martin Lagacé, tu nous faisais un portrait de l'historien et chanoine Lionel Groulx. On peut lire ton texte dans le plus récent numéro du Verbe « Sur les épaules d'un géant », le chanoine Lionel Groulx, 1878 à 1967. Rappelons que tu es vicaire à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, membre de la communauté de l'Emmanuel à Québec et cofondateur de l'Observatoire Justice et Paix. Il va falloir que tu reviennes à On n'est pas du monde pour nous parler de la prochaine université d'été de cet observatoire. Merci beaucoup, Martin.
Avec plaisir. Merci.
C'était On n'est pas du monde en version 15 minutes avec Antoine Malenfant et son invité.